Chapitre 6. Le soleil venait de se lever, et Zeus se trouvait seul dans le grand hall des dieux lorsqu'entra Hérée, son épouse, qui tirait un chien au bout d'une laisse en or.
« C'est lui ?»
demanda le seigneur des dieux, assis l'air sombre sur son trône doré.
« Oui. »
Hérée détacha le chien. Il s'assit.
« Fais venir ton fils, »
ordonna Zeus.
« Lequel ?»«
Le grand artificier, celui qui bande tellement pour Athénée qu'il s'est un jour frotté contre sa cuisse, comme le ferait ce chien s'il était mal poli. »
Hérée se dirigea vers la sortie. Le chien fit mine de la suivre.
« Laisse ce chien ici, »
ordonna Zeus. Hérée fit signe à l'animal de ne pas bouger, et il s'exécuta. C'était un chien de belle taille, au poil ras et gris, au corps souple, avec des yeux marron clair où perçait un mélange paradoxal de ruse et de stupidité. Il se mit à arpenter le hall, ses griffes raclant le marbre autour du trône doré de Zeus. Il renifla les sandales et les orteils du maître de la foudre, du fils de Cronos. Puis il trottina jusqu'au bord du gigantesque bassin d'Holovision, y jeta un coup d'œil et ne voyant rien d'intéressant dans la neige tournoyante qui brouillait la surface de l'écran, se dirigea vers une colonne distante de quelques mètres.
« Au pied !»
ordonna Zeus. Le chien se fixa un instant, puis détourna la tête. Il se mit à renifler la base de la colonne blanche d'une façon qui ne présageait rien de bon. Zeus siffla. Le chien releva vivement la tête et ses oreilles frémirent, mais il resta là où il était. Zeus siffla une nouvelle fois et tapa des mains. Le chien accourut en se dandinant la langue pendante, les yeux mouillés de bonheur. Zeus descendit de son trône et caressa la tête de l'animal. Puis il s'empara d'un couteau caché dans les replis de sa robe et d'un puissant mouvement du bras lui trancha la tête. Celle-ci alla rouler jusqu'au bord du bassin de vision, tandis que le corps du chien tombait comme une masse sur le sol, les pattes antérieures tendues devant lui, comme s'il venait de s'asseoir ainsi qu'on le lui avait ordonné, et attendait sagement sa récompense. Hérée et Héphaïstos entrèrent dans le grand hall et s'avancèrent sur la vaste esplanade de marbre.
« On joue encore avec les bêtes, monseigneur ?»
demanda Hérée en s'approchant. En guise de réponse, Zeus eut un geste plein de dédain, puis il remit son arme en place et regagna son trône. Héphaïstos, plutôt petit et trapu pour un dieu, mesurait à peine 2 mètres de haut. Il évoquait un gros tonneau velu. Le dieu du feu était également boiteux et traînait sa jambe gauche comme un poids mort, ce qu'elle était en vérité. Il avait des cheveux en bataille, une barbe hirsute qu'on ne pouvait distinguer des poils de son torse, et des yeux rougis qui semblaient ne jamais se fixer nulle part. On aurait cru de prime abord qu'il portait une armure, mais il s'agissait en fait d'un manteau d'arlequin composé de centaines de trousses, de besaces, d'outils et autres appareils. Les métaux précieux s'y mêlaient au plomb le plus vil, le cuir tanné aux poils tressés, accroché à une complexe résille de sangles et de ceinturons qui lui maillaient le corps. Forgeron suprême, Héphaïstos s'était jadis rendu célèbre à Olympos pour avoir créé des femmes en or, de jeunes vierges mécaniques capables de bouger, de sourire et de donner du plaisir aux hommes comme si elles étaient vivantes. On disait que c'était dans ces cuves alchimiques qu'avait été façonnée Pandore, la première femme.
« Sois le bienvenu, artificier !»
tonna Zeus.
« J'aurais pu te convoquer plus tôt, mais nous n'avions ni chaudron ni bouclier à réparer. »
Héphaïstos s'assit près du corps décapité du chien.
« Tu n'avais pas besoin de faire ça, »
marmonna-t-il.
« Vraiment pas besoin. »
Il m'agaçait.
Zeus leva le gobelet posé sur l'accoudoir de son trône doré et y but goulûment. Héphaïstos fit rouler le cadavre de chien sur son flanc, passa une main sur sa cage thoracique comme pour lui caresser le ventre et pressa. Un carré de poils et de peau s'ouvrit. Plongeant la main dans les tripes du chien, le dieu du feu en retira un sachet translucide rempli de morceaux de viande et autres objets. Il y préleva un lambeau de chair rose et humide.
« Dionysos !»
déclara-t-il.
« Mon fils !»
ajouta Zeus. Il se frotta les tempes, comme là de toute cette histoire.
« Dois-je confier ce reste aux cuves du guérisseur ?» ô fils de Cronos ?
Sans qui le dieu du feu ?
Non. Nous allons prier l'un des nôtres de le manger afin que mon fils renaisse conformément à son vœu. Ce genre de communion occasionne quelques souffrances à l'hôte, mais peut-être que ça apprendra aux dieux et aux déesses d'Olympos à veiller sur mes enfants avec un peu plus d'attention.
Zeus se tourna vers Erê, qui était venu s'asseoir sur la deuxième marche de son trône, le bras droit affectueusement posé sur sa cuisse, la main blanche lui touchant le genou.
« Non, mon époux, »
dit-elle à voix basse.
« Je t'en supplie. »
Zeus sourit.
« Alors, à toi de choisir, mon épouse. »
« Aphrodite, »
répondit Erê sans la moindre hésitation.
« Elle a l'habitude de se fourrer des bouts d'homme dans la bouche. »
Zeus secoua la tête.
« Non, pas Aphrodite. » Depuis qu'elle est sortie de sa cuve de soins, elle n'a rien fait qui mérite mon courroux. Pourquoi pas Pallas Athénée, l'immortel qui nous a infligé cette guerre contre les mortels en tuant bêtement Patrocle, le bien-aimé d'Achille, et le fils nouveau-né d'Hector ?
Erê retira son bras.
Athénée nie avoir accompli de tels actes, fils de Cronos. Et les mortels affirment qu'Aphrodite était à ses côtés lorsque le bébé d'Hector a été oxy.
Le bassin de vision a capturé les images du meurtre de Patrocle, mon épouse. Veux-tu que je te les repasse ?
La voix de Zeus, si basse qu'elle évoquait le grondement d'un tonnerre lointain même lorsqu'il chuchotait, trahissait une colère sans cesse croissante. On aurait dit qu'une tempête se levait au sein même du hall des dieux.
Non, Seigneur,
dit Erê.
Mais comme tu le sais, Athénée affirme que c'est Auchenberry, le scoliaste disparu, qui a adopté sa forme pour accomplir ses actes. Elle jure sur l'amour que tu lui inspires qu'elle...
Zeus quitta son trône d'un bond et se mit à faire les 100 pas.
Les bracelets de morphine dont étaient équipés les scoliastes ne permettent pas à un mortel d'endosser la forme et la puissance d'un dieu,
répliqua-t-il sèchement.
C'est impossible. Même pour un instant seulement. C'est un dieu ou une déesse d'Olympos qui a fait cela, soit Athénée, soit une divinité ayant usurpé sa forme. Maintenant, choisis celui qui recevra le corps et le sang de mon fils Dionysos.
Déméter.
Zeus caressa sa courte barbe blanche.
Déméter. Ma sœur. La mère de ma bien-aimée Perséphone.
Erê se leva, recula d'un pas et ouvrit ses bras blancs.
Y a-t-il sur cette montagne un dieu qui ne te soit pas apparenté, mon époux ? Je suis ta sœur ainsi que ton épouse. Au moins Déméter a-t-elle déjà accouché de créatures fort étranges ? Et elle n'a pas grand-chose à faire ces temps-ci, vu que les mortels ont cessé de semer et de récolter.
Qu'il en soit ainsi,
déclara Zeus, qui ordonna à Héphaïstos.
Apporte la chair de mon fils à Déméter et dis-lui que Zeus, son seigneur, lui ordonne de la manger afin de ramener mon fils à la vie. Réquisitionne 3 de mes Érinyes pour veiller sur elle jusqu'à son terme.
Le dieu du feu haussa les épaules et rangea le lambeau de chair dans l'une de ses besaces.
Souhaites-tu voir des images du bûcher de Paris ?
Oui,
fit Zeus. Il retourna s'asseoir sur son trône, tapotant au passage la marche qu'Erê venait de déserter. Obéissante, elle s'y rassit, mais elle s'abstint de poser un bras sur sa cuisse. Grommelant dans sa barbe, Héphaïstos ramassa la tête de chien par les oreilles et se dirigea vers le bassin de visionnage. Il s'accroupit près du bord, attrapa dans une trousse un outil métallique à lame incurvée et fit jaillir de son orbite l'œil gauche du chien. Pas une goutte de sang ne coula. L'œil sortit sans peine, mais le nerf optique, une tresse de filaments rouges, verts et blancs, mit un long moment à se dérouler. Lorsqu'il eut retiré une 60aine de centimètres de cordage luisant, il le trancha au moyen d'un autre outil provenant de sa panoplie. Mordillant à pleines dents dans les couches de muqueuse et d'isolant, Héphaïstos fit apparaître un fil d'or. Après l'avoir taillé, il le brancha sur une petite sphère de métal qu'il pêcha dans une besace. Gardant celle-ci près de lui, il jeta dans le bassin le globe oculaire et les fibres nerveuses qui y restaient attachées. Le bassin s'emplit aussitôt d'images en 3 dimensions. Le son enveloppa les dieux de toutes parts, retransmis par des haut-parleurs piézoélectriques dissimulés dans les murs et les colonnades. Ces images d'Ilium provenaient d'un chien, bien entendu. On y voyait surtout des genoux nus et des jambières de bronze.
« Je préférais les retransmissions d'avant, »
marmonna Erré.
« Les Moravec détectent et descendent tous nos drones, même ces foutus insectes, »
dit Héphaïstos en passant en avance rapide pour accélérer la procession funéraire.
« Encore heureux que... Silence !»
ordonna Zeus d'une voix dont l'écho résonna sur tous les murs.
« Là, on y est. Mets le son. »
Tous trois observèrent les dernières minutes du rituel, y compris le massacre de Dionysos aux mains d'Hector. Et ils virent le fils de Zeus regarder le chien droit dans les yeux lorsqu'il déclara « Bouffe-moi ».
« Tu peux arrêter ?»
dit Erré lorsque l'on vit Hector lâcher la torche sur le bûcher.
« Non !» dit Zeus. « Continue !»
Une minute plus tard, le seigneur de la foudre quittait son trône pour se planter au bord du bassin holographique, le front ombrageux, les yeux en furie et les poings serrés.
« Comment ce mortel d'Hector ose-t-il invoquer Boré et Zéphyr pour attiser le feu qui va dévorer les viscères, les tripes et les couilles d'un dieu ? Comment ose-t-il ? »
Zeus se téléporta en un lieu connu de lui seul, et l'air produisit un bruit de tonnerre en comblant le vide correspondant à l'espace qu'il avait occupé une microseconde plus tôt. Erré secoua la tête.
Il assiste sans broncher ou presque au meurtre rituel de son fils Dionysos, mais il se met en rage quand Hector tente d'invoquer les dieux du vent. Notre père est en train de perdre la boule, Héphaïstos.
Poussant un grognement, son fils rembobina son gadget et le rangea dans sa besace, ainsi que la sphère de métal. Il glissa la tête de chien dans une sacoche.
« As-tu besoin d'autre chose ce matin, fille de Cronos ?»
Elle désigna la carcasse du chien avec le panneau toujours ouvert dans son ventre.
« Débarrasse-moi de ça !»
Une fois que son fils mal embouché eut pris congé, Erré porta une main à son sein et se técut loin du grand hall des dieux. Personne ne pouvait se téléporter dans la chambre d'Erré, même pas Erré. Longtemps auparavant, si tant est qu'elle pût se fier à sa mémoire, toute mémoire étant suspecte ces temps-ci, elle avait demandé à son fils Héphaïstos d'user de tous ses talents d'artificier pour sécuriser ses appartements privés. Des champs de force de flux quantique, semblables mais non identiques à ceux grâce auxquels les Moravec protégeaient Troie et le campement achéen de toute attaque divine, pulsaient à l'intérieur des murs. La porte de sa chambre était en titane renforcée au flux quantique, assez forte pour résister même à un Zeus furibond, et Héphaïstos l'avait fermement fixée à des piétrois quantiques, l'équipant en outre d'un verrou télépathique actionné par un mot de passe qu'Erré changeait chaque jour. Elle ouvrit le verrou en question et entra, refermant derrière elle la barrière métallique étanche et se dirigeant vers la salle de bain, semant sur sa route sa robe et ses sous-vêtements vaporeux. Erré, aux yeux de vache, commença par se faire couler un bain, utilisant une eau provenant des sources les plus pures d'Olympos et chauffée par les machines infernales d'Héphaïstos, alimentée par la lave de l'antique volcan. Elle se frictionna tout d'abord avec de l'ambroisie, éliminant de son étincelante peau blanche toute trace d'ombre et d'imperfection. Puis Erré, aux bras blancs, frictionna son corps éternellement adorable et séduisant avec un onguent à base d'olive, puis une huile parfumée. On disait que cette huile, réservée à son usage exclusif, était non seulement capable d'exciter toutes les divinités de sexe masculin présentes dans les palais au sol de bronze d'Olympos, mais que ses effluves dérivaient en outre jusqu'à la terre où il plongeait des mortels innocents dans les affres du désir. Puis, la fille du puissant Cronos coiffa les boucles luisantes de ses cheveux pour faire ressortir le galbe de ses joues et enfila une robe splendide qu'Athénée lui avait taillée sur mesure il y avait bien longtemps, lorsque toutes deux étaient amies. Son tissu soyeux, d'une ineffable douceur, était orné de maints motifs ouvragés, un magnifique brocart en forme de rose, dû à la magie des doigts et du métier à tisser d'Athénée. Erré fixa cette tenue digne d'une déesse au moyen d'une broche dorée et d'une ceinture, placée de manière à faire ressortir ses seins, ornée d'une centaine de glands. au lobe percé de ses oreilles, qui pointait au sein de ses boucles noires telles de timides créatures marines, Erré fixa des boucles somptueuses, des grappes de mûres dont l'éclat argenté ne pouvait que conquérir un cœur masculin. Puis elle posa sur son front un voile doux et frais, tissé de fils d'or en suspension qui étincelait comme le soleil au-dessus de ses pommettes rosies. Finalement, elle glissa ses pieds menus dans des sandales de cuir souple, dont elle noua les lanières d'or sur ses mollets lisses. Éblouissante de la tête aux pieds, Erré se planta devant le mur réfléchissant près de la porte de la salle de bain, examina son reflet en silence et murmura
« Tu as encore de beaux restes ».
Puis elle quitta ses appartements privés, s'avança dans le couloir de marbre peuplé d'échos, se toucha le sein gauche et se téléporta. Erré trouva Aphrodite, déesse de l'amour, en train de se promener sur le flanc sud du mont Olympos. La fin de la journée était proche, les temples et les demeures situées à l'est de la caldeira étaient inondés de lumière, et Aphrodite admirait les touches d'or dont se parait l'océan martien au nord, ainsi que les glaciers des trois gigantesques volcans visibles à l'est, vers lesquels Olympos projetait une ombre longue de plus de 200 kilomètres. Si cette vue imprenable était légèrement floue, c'était à cause du champ de force qui entourait Olympos et leur permettait de respirer, de survivre et de jouir d'une pesanteur quasi normale, et ce, bien qu'ils se trouvassent à proximité du vide spatial, mais aussi à cause de la chatoyante égide que Zeus avait mise en place autour d'Olympos dès le début de la guerre. Le trou que l'on voyait en contrebas, un disque découpé dans l'ombre d'Olympos où luisait le couchant d'un autre monde et scintillaient les feux des mortels et les balises des engins morts avec, leur rappelait ce conflit en permanence.
« Ma chère enfant, »
dit Erré à la déesse de l'amour,
« veux-tu me rendre un service? Oserais-tu me le refuser? M'en veux-tu encore d'avoir aidé les Argiens ces 10 dernières années, pendant que tu défendais tes bien-aimés Troyens? Reine des cieux, »
répondit Aphrodite.
« Bien-aimée de Zeus, demande-moi tout ce que tu voudras. Je t'écouterai avec joie. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour plaire à une déesse aussi puissante que tu l'es. »
Le soleil avait presque sombré, et les deux déesses étaient plongées dans la pénombre, mais Erré remarqua que la peau d'Aphrodite et son perpétuel sourire semblaient émettre leur propre lueur. La réaction d'Erré étant celle d'une femme, elle n'aurait su imaginer les sentiments que pouvait éprouver à ce spectacle un dieu de sexe masculin, sans parler de ses mortels si faillibles. Elle prit son souffle, car les paroles qu'elle allait prononcer mettraient en branle l'intrigue la plus dangereuse qu'eût jamais conçue son intrigant cerveau, et déclara
« Donne-moi le pouvoir de susciter l'amour, de commander au désir. Donne-moi les pouvoirs avec lesquels tu manipules les dieux comme les mortels. »
Le sourire d'Aphrodite resta en place, mais ses yeux clairs se plissèrent d'un rien.
« Bien entendu, fille de Cronos, si telle est ta volonté. Mais pourquoi celle qui repose déjà entre les bras du puissant Zeus aurait-elle besoin de mes petites ruses ?»
Erré s'efforça de conserver une voix posée. Mais comme tous les menteurs, elle ne put s'empêcher de donner des détails superflus.
« Cette guerre me lasse, déesse de l'amour. Tous ces complots, toutes ces intrigues, tant parmi les dieux que dans les rangs des Argiens et des Troyens, ont fini par blesser mon cœur. » J'ai décidé de me rendre au bout de l'autre terre si généreuse pour visiter Océan, cette fontaine dont sont issus tous les dieux, ainsi que Mère Tétis. Ces deux êtres pleins de bonté m'ont élevé dans leur maison, Rhea m'ayant confié à eux lorsque Zeus au large front a chassé Cronos dans les profondeurs de la terre, sous les mers stériles et salées, pour nous construire une nouvelle demeure sur ce monde froid et rouge. Mais pourquoi errer ?
Demanda Aphrodite d'une voix douce.
« Pourquoi as-tu besoin de mes charmes avant d'aller voir Océan et Tétis ?»
Erré se fendit d'un sourire innocent.
« Les dieux primordiaux se sont éloignés l'un de l'autre et leur lit conjugal s'est refroidi. J'ai bien l'intention de les réconcilier et de leur faire oublier leurs anciennes querelles. Cela fait trop longtemps qu'ils vivent séparés, loin de leur couche d'amour. » Je veux les attirer à nouveau dans celle-ci, les attirer l'un vers l'autre, et jamais mes discours seuls ne pourront y parvenir. Je te prie donc, Aphrodite, au nom de l'amitié qui était jadis la nôtre, et que je tiens aussi à voir refleurir, de me prêter l'un de tes secrets, afin que j'aide Thétis à susciter de nouveau le désir d'Océan. »
Le charmant sourire d'Aphrodite se fit plus radieux encore. Le soleil avait disparu derrière l'horizon martien, le sommet d'Olympos était plongé dans les ténèbres, mais le sourire de la déesse de l'amour les réchauffa toutes les deux.
« Il serait malvenu que je repousse ta requête si généreuse, ô épouse de Zeus, car ton époux, notre seigneur, est notre maître à tous. »
Cela dit, Aphrodite défit la ceinture passée autour de sa poitrine et prit dans sa main ce petit ruban de tissu et de micro-circuit. Héré le fixa des yeux, la bouche soudain sèche.
« Vais-je oser poursuivre ? Si Aphrodite découvre ce que je mijote, ses complices et elle m'attaqueront sans pitié. Si Zeus découvre ma traîtrise, il me détruira de façon définitive et ni la cuve de soins ni le guérisseur venu d'ailleurs ne pourront me rendre ma vie olympienne. Explique-moi comment ça marche,
demanda-t-elle dans un murmure à la déesse de l'amour.
Ce ruban recèle toutes les armes de la séduction,
répondit Aphrodite sur le même ton.
La chaleur de l'amour, la palpitation du désir, les sibilantes sinuosités du sexe, les cris rauques de l'amant et les murmures des mots doux. Tout ça sur ce petit bout de tissu? Mais comment ça marche? Il y a là-dedans une magie capable de rendre un homme fou de désir,
chuchota Aphrodite.
Oui, oui, mais comment ça marche?
Héré entendit l'impatience qui perçait dans sa voix.
« Comment le saurais-je ? »
répliqua la déesse de l'amour en riant.
« Ça fait partie du package que j'ai reçu quand il a fait de nous des dieux. Un spectre de phéromones, des activateurs hormonaux gonflés ou nano, un émetteur de micro-ondes calé sur les centres cérébraux du sexe et du plaisir. Aucune importance. J'ai d'autres tours dans mon sac, mais celui-ci marche à la perfection. Prends-le, épouse de Zeus. »
Héré se fendit d'un sourire. Elle glissa le ruban entre ses seins, prenant à peine le soin de le dissimuler sous sa robe.
« Comment je l'active ? Tu veux dire, comment aideras-tu Mère Thétis à l'activer ?»
demanda Aphrodite sans cesser de sourire.
« Oui, oui. Le moment venu, touche-toi le sein comme tu le ferais pour activer les nanodéclencheurs TQ. Mais au lieu de visualiser ta destination... Pose un doigt sur les micro-circuits intégrés au tissu et formule tes pensées salaces. Ah bon? C'est tout? C'est tout, mais ça suffit bien. Il y a tout un nouveau monde dans la trame de ce ruban. Merci, déesse de l'amour,
dit Héré sur un ton des plus formels. Au-dessus d'eux, des faisceaux lasers poignardaient le champ de force. Un spationnef ou un frelon Moravec venait de franchir le trou pour s'envoler vers l'espace.
« Je sais que tu ne reviendras pas ici sans avoir accompli tes missions, »
dit Aphrodite.
« Quel que soit l'ardent désir qui habite ton cœur, je suis sûr qu'il sera assouvi. »
Héré ne put s'empêcher de sourire. Puis elle se toucha le sein, veillant à ne pas frôler le ruban coincé sur sa poitrine, et se téléporta, suivant la piste quantique que Zeus avait laissée derrière lui, au sein des replis de l'espace-temps.